Vous écoutez France Culture.
Aujourd'hui, la grande table d'été se fait toboggan et tapis de prière, vers de terre et turban, par la magie du cinéma documentaire à l'heure du festival du film de Lussas. Puis notre tablée se changera dans un deuxième temps en camionnette de militants socialistes qui dirent avec des roses leur amour commun et témoignent aujourd'hui de leur désillusion dans la comédie nostalgique des lendemains qui chantent de Nicolas Castro qui viendra accompagné de l'un de ses acteurs, Ramzi Bedia. Mais avant d'ouvrir la première partie de la grande table d'aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à la poétesse iranienne Simin Berbahani, femme libre, plume indocile, lauréate du prix Simone de Beauvoir en 2009, que vous avez pu écouter en version originale dans les matins de France Culture et que je vous propose d'écouter en version française dans le poème Tsiganes 13, choisi par Corinne Amar.
Chante, tzigane, chante, chante pour rendre hommage à l'existence, que soit portée à chaque oreille ta présence. Les cheminées des monstres, récurgitant leur fumée brûle, yeux et gorges, hurlent, si tu le peux, de l'horreur de cette nuit. Le secret de vie de chaque monstre se cache dans le ventre d'un poisson rouge, baignant dans les eaux dont tu ignores le chemin. La tête de chaque monstre trône sur les cuisses d'une fille, telle une bûche sur lingots d'argent. Dans leur soif de saccage, les monstres ont pilé soie et rubis des joues et lèvres de ces Vénus. Pour désir de liberté, danse tzigane, et sur ce rythme, envoie un message pour recevoir une réponse. Il faut un signal à la conscience du monde pour croire à ton existence. Frotte donc un fer sur la pierre pour déclencher le feu. Les âges noirs reculés oppriment ton corps. Sors, ne sois pas une trace sur un fossile. Pour ne pas périr, tzigane, il faut briser la chape du silence. C'est dire que pour rendre hommage à l'existence, il faut que tu chantes.
Tsiganes 13 de la poétesse iranienne Simin Berbahani était lue par Corinne Amar sur une musique de l'ensemble Dastan. Et à présent, je vous propose de passer de la sublimation poétique au réel et au cinéma qui s'y frotte. Le réel, cet impossible dont parlait Jacques Lacan et auquel se mesurait Mariana Otero avec son film « À ciel ouvert » tourné au Courtil en Belgique, dans un établissement qui accueille les enfants psychotiques, c'est-à-dire des enfants à peine un peu plus fous que chacun d'entre nous. « À ciel ouvert » qui avait été projeté au festival du film documentaire de Lussas l'an dernier et qui sort dans quelques jours en DVD. Bonjour Mariana Otero.
Bonjour.
Ce réel et le cinéma qu'il regarde en face prend encore d'autres atours chez vous, Mehran Tamadon, dans la maison que vous avez partagée avec quatre mollets pour votre film, sobrement intitulé « Iranien » et qui, lui, est à découvrir demain soir à Lussas. Bonjour, Mehran Tamadon.
Bonjour.
Entrez.
Ah, c'est bien moi.
Oui, c'est moi.
J'ai lire un roman.
Ah, tu dis, je peux rentrer?
Oui, allez-y.
On va mettre un peu de lumière, parce qu'il fait sombre, moi.
Eh ben, bienvenue. Bienvenue dans une chambre.
Ça, c'est ta chambre. Hein.
Oui, c'est ma chambre de l'internat. Ça, c'est mes affaires, ça c'est mon sac pour les verrues.
Alors Mariana Otero, en ouverture de votre film À ciel ouvert, avant même que Jean-Hugues nous fasse faire la visite, comme on vient de l'entendre à l'instant. Il y a cette jeune fille, la petite Amina, qui regarde la caméra dans les yeux et qui vous dit « je veux faire toi ». En mettant cette séquence en exergue, que vouliez-vous montrer de votre rencontre avec Amina, avec Jean-Hugues, avec les autres enfants du Courtil ?
J'ai ouvert le film avec cette rencontre de cette petite fille avec la caméra parce que pour moi le film est bâti là-dessus en fait, dans la relation que ces enfants ont avec moi et la caméra. L'hypothèse que j'avais faite en fait pour donner à comprendre quelque chose de ces enfants et de leur rapport singulier au monde, c'est que quelque chose allait se raconter justement dans leur rapport à la caméra, parce que ce qui est problématique pour eux, c'est le rapport à l'autre.
Et donc, le regard de l'autre en particulier.
En particulier, voilà. Et donc je me suis dit qu'il fallait que pour ce tournage, je travaille seule. Donc je me suis accrochée la caméra à mon corps. Hein. J'ai fait corps avec la caméra. J'étais un peu monstrueuse. Je ressemblais un peu à un Robocop. Hein. J'avais le micro sur la caméra, un micro devant, un micro derrière. Et j'avais accroché la caméra à un easy rig. Et donc je faisais corps. Donc ils me connaissaient très bien sans caméra. Et le premier jour où je suis arrivée, donc Amina a eu cette réaction. Je veux faire toi. Et le film, au fond, raconte la relation qu'ils ont avec la caméra. Cette relation nous permet d'entrer en relation avec eux. Enfin, le spectateur, du coup, arrive à comprendre ses enfants petit à petit, puisque le film, c'est ça. C'est vraiment une expérience de regard pour comprendre ses enfants.
Parce que peut-être à la différence d'un tournage documentaire avec des gens, comme on appelle parfois, normaux, bien que personne ne soit normal, on le comprend en regardant à ciel ouvert, c'est que la caméra effraie, le regard de la caméra effraie tout un chacun, alors que, étrangement, c'est le contraire qui se produit pour ces enfants.
Oui, alors il y a eu quelques enfants qui ont été effrayés. Hein, c'est pas... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met en évidence quelque chose de... Alors quand, par exemple, Amina dit « je veux faire toi », au fond, c'est pas exactement comme une petite fille qui dirait plus tard « je veux faire du cinéma ». Là, il y a vraiment une confusion pour elle. C'est-à-dire, elle et l'autre, c'est quelque part le même. Et tout le travail qui se fait avec Amina, par exemple, c'est d'essayer de séparer Amina des autres et d'essayer de faire en sorte que cette confusion n'ait plus lieu. Et donc, pour chacun, en fait, le film raconte cette relation à la caméra et raconte quelque chose de... Bon, pour Alison, par exemple, cette autre petite fille qui a le corps disloqué, elle aura une relation à la caméra encore différente. Enfin, voilà, à chaque fois, ça dit quelque chose de leur rapport à l'autre et de leur rapport à leur propre corps.
Mehran Tamadon, on peut peut-être dire que l'Iran est un corps disloqué, un corps politique disloqué. En tout cas, il y a vous, d'un côté, le réalisateur, le documentariste athée, et puis les mollahs, défenseurs du régime de la République islamique d'Iran, que vous avez choisi de filmer, c'est-à-dire le prolongement d'un travail que vous menez depuis de longues années, avec un film sur les Basijis, les gardiens de la révolution, les miliciens du régime, qui était votre précédent long-métrage documentaire. Là, votre film, vous, il commence à l'entrée d'une mosquée, il entre dans la mosquée, puis ensuite vous expliquer votre projet c'était de faire corps ou tout du moins de coexister avec ces mollahs, ces défenseurs du régime.
L'idée du film a démarré en 2010, juste après les élections de 2009 qui étaient très contestées. Donc vous vous rappelez l'histoire du mouvement vert où les Iraniens étaient venus dans la rue manifester et contre l'élection de Ahmadinejad. Moi, juste après, je suis parti en Iran, donc j'ai été revoir les personnes que j'avais filmées en 2009, et je leur ai dit, bon, imaginez qu'on vive ensemble dans une maison, et qu'il y ait une chambre pour vous, et une chambre pour moi, et qu'on vive tous en famille.
Ce qui n'est pas le cas, pardonnez-moi, Mehran Tamadon, à l'heure actuelle, puisque vous vivez en France. Vous n'avez pas votre chambre en Iran.
Oui, j'ai pas ma chambre en Iran. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que pourquoi est-ce que des gens comme moi, on doit vivre à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un salon commun qui appartienne à nous tous? Pourquoi est-ce que ce salon, il doit être décoré par vous? Pourquoi est-ce qu'on doit vivre dans vos meubles, avec vos règles, vos lois? Donc, j'ai mis plusieurs années à convaincre quelques personnes de vraiment vivre cette expérience de vivre ensemble dans une maison. Donc, au départ, c'était avec les personnages de mon film précédent que je voulais faire ce projet. J'ai pas réussi à les convaincre. Donc, du coup, j'ai dû changer de milieu et puis rencontrer quelques personnes, donc des mollahs, qui ont finalement accepté de participer à ce projet. Pour voir, eux aussi, même de leur côté, c'était intéressant de débattre de cette question-là. Hein. Ils trouvaient que c'était très intéressant. et de voir dans quelle mesure est-ce que c'est possible d'avoir un espace commun, de partager un espace ensemble, tout en gardant nos différences. C'est ça le truc. Donc, l'intérêt tout le projet, c'est ça. C'est comment est-ce que moi, je peux exister en tant que quelqu'un de différent et entendre que l'autre est différent de moi. Voilà.
Une entreprise qui avait quelque chose de périlleux.
Dans quel sens ?
Pour vous, pour votre liberté, pour votre corps. On parlait du corps des enfants psychotiques du Courtil à l'instant avec Mariana Otero. Oui. Vous avez subi des interrogatoires. Il y avait un danger dans cette proposition lancée à ces mots-là.
Oui, c'est sûr. Il y a un danger. Alors, moi, ce qui me sauve, j'ai l'impression en tout cas, c'est que je tisse des liens. Et donc, ce lien que je tisse avec des personnes, quelque part, me protège. Et aussi parce que je les filme beaucoup et que ces images, je les sors du pays. Et quelque part, c'est une sorte de bouclier pour moi pour repartir en Iran et tourner. Ouais.
Mariana Otero, parlons du titre de vos films respectifs. Vous, c'est « À ciel ouvert ». Alors, ça a rapport à l'inconscient, comme on l'entend dans le film. Mais pourquoi avoir choisi ce terme ? Alors, il y a de très beaux plans de ciel, de nuages, et parfois on tourne les yeux vers le ciel avec les enfants du Courtil.
Oui, alors effectivement, il y a une phrase de Lacan qui dit que les psychotiques ont l'inconscient à ciel ouvert. Et ce que j'ai trouvé en fait au Courtil, hein, c'est donc une institution, comme vous l'avez dit, une institution belge qui accueille 250 enfants. J'ai longtemps cherché un lieu en fait pour faire ce film, hein, un lieu où je puisse justement comprendre. J'ai visité beaucoup de foyers, par exemple en France, hein, qui accueillaient comme ça des personnes en souffrance psychique. Et en général, j'avais l'impression que les gens qui travaillaient là projetaient sur les enfants leur propre manière de voir le monde. Et que du coup, j'avais pas accès en fait à la singularité. Et au Courtil, c'est complètement différent. Quand j'ai assisté à la première réunion des responsables thérapeutiques, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'ils ne parlaient pas d'handicapés. Ils ne disaient pas handicapés psychiques, handicapés mentaux. Et j'aurais demandé pourquoi. Ils m'ont dit parce que pour nous, ces enfants, ce ne sont pas des handicapés. Il ne leur manque rien. Ce sont des êtres singuliers. Ce sont des énigmes. Et notre principal travail, c'est essayer de comprendre. Et j'ai vraiment une impression de ça au Courtil. C'est-à-dire que dans ce travail qu'ils font d'essayer de comprendre ces enfants, j'avais l'impression du coup de pouvoir entendre leur inconscient, de pouvoir voir leur inconscient à ciel ouvert. Vous voyez, c'est-à-dire que l'espèce de couvercle que l'on pose souvent sur les personnes différentes où on ne veut pas voir leurs différences, on ne veut pas les comprendre, eh bien là, j'avais l'impression que le couvercle était levé et qu'on avait accès à ces enfants et à leur rapport très, très singulier au monde, au corps, enfin, ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre « À ciel ouvert », puisque là, effectivement, on peut voir, on peut entendre, on peut comprendre.
Et dans ce lieu que vous avez longtemps cherché avant de le trouver, on a l'impression, Mariana Otero, d'être dans un espace qui va à contre-courant de l'époque tout entière.
C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une espèce de volonté de conformisme et de conformer, en fait.
D'éduquer, de rééduquer.
D'éduquer, de rééduquer. L'autre, au fond, il doit ressembler à une norme. Il y a aussi tout un... Dans la psychiatrie actuelle, il y a, la psychanalyse n'a plus tellement le vent en poupe. Hein, et il y a comme dans plein d'autres lieux de travail, hein, ça peut être à la poste, dans les entreprises, etc., il y a une espèce de protocolisation, on va dire, du travail. Il n'y a plus la relation humaine, il n'y a plus cet intérêt pour l'autre et la singularité, pour le sujet au fond. Et donc, ça fait 30 ans que le Courtil existe, mais quelque part, il redevient révolutionnaire. Quoi.
Behrane Tamadon, ce qui est étonnant dans votre film iranien, c'est certes la singularité des acteurs, mais aussi le singulier, qui est celui que vous avez choisi pour le titre de votre film, iranien au singulier, alors que vous montrez deux types d'Iraniens qui sont, somme toute, très différents. Vous, qui êtes athée, et puis ces mollahs. Pourquoi avoir choisi ce singulier ?
Le titre au singulier, c'est en fait une revendication. Donc le titre « iranien au singulier » signifie « moi aussi je suis iranien, il n'y a pas que vous qui êtes iranien ». Voilà. Donc
c'est vous le héros.
Alors, je suis un des personnages du film, forcément, puisque je vis avec eux dans une maison. Et d'ailleurs, c'est une des complexités de ce film, c'est faire partie de ce film et avoir la distance pour pouvoir se monter soi-même. Je ne monte pas quatre personnages, c'est-à-dire les quatre mollahs, je monte cinq personnages, dont moi. Et moi, j'ai les deux casquettes, je suis donc l'un des personnages du film. Et en même temps, je suis le monteur ou le réalisateur du film. Donc, il faut que j'ai la distance nécessaire avec moi-même pour pouvoir monter ce film et que le spectateur puisse comprendre. Si moi, j'arrive à trouver la distance avec moi, le spectateur peut le faire aussi et voir le film à distance et comprendre le film, quoi.
Aujourd'hui, on aime bien avoir des synopsis, des pitchs, comme on dit en anglais, résumer le film en une phrase. Si on cherche à résumer votre film, Erhan Tamadon, iranien, c'est l'histoire d'un athée et de quatre mollahs dans une maison. Alors, ça ressemble à une blague. Vous aviez une comédie en tête quand vous êtes lancé dans ce projet ?
Alors, c'est sûr que l'humour est très important, même dans ce film. Beaucoup de gens, moi, quand je montais le film, je rigolais tout seul et j'étais content de voir que en salle, les spectateurs rigolent avec moi. Oui, c'est disons, s'il n'y a pas cet humour, cette légèreté, le film devient très très plombant, quoi. Oui. Donc c'est un pari, donc c'est un peu une performance, je l'ai un peu conçu comme ça, comme une performance de vivre ensemble de cinq personnes qui sont pas d'accord forcément. Et même entre eux, il y a aussi des fois des discordes, ils sont pas toujours forcément d'accord entre eux, quoi.
Mariana Otero, il y avait l'idée aussi d'une performance dans le dispositif de tournage que vous avez adopté, dont vous nous parliez tout à l'heure, en vous équipant, vous bardant de micros et en faisant corps avec cette caméra.
Le fait d'effectivement de m'immerger comme ça dans ce lieu, il y avait au départ, par exemple, enfin, moi-même, je ne pensais pas filmer les enfants et le courtier ne pensait pas accepter que je filme les enfants. C'est quand même très compliqué.
Alors, qu'est-ce que vous pensiez filmer ?
Je ne savais pas trop, en fait. J'étais même pas sûre de faire un film, en fait. C'est au fur et à mesure que, petit à petit, en commençant à comprendre ces enfants, en commençant à comprendre la manière dont ils travaillaient, je me suis dit, en fait, le film est possible. Et au courtier aussi, ils se sont dit, c'est possible. Et ce qui a été très beau, c'est qu'en fait, ils se sont dit, elle va déranger. Parce qu'évidemment j'allais déranger le travail, puisque j'allais être un regard comme ça, mais ce dérangement, ça va permettre de créer quelque chose et ça va être intéressant, parce que c'est un lieu où le dérangement en fait est pour ressource d'invention. Et je dois dire que c'est la première fois que je suis accueillie à ce point comme cinéaste de cette manière-là. Donc il y avait une improvisation totale, parce que rien n'est programmé dans cet endroit. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'éduquer, de rééduquer. On ne se dit pas on va faire ça, on va faire ci. Donc tout est absolument improvisé. Ils considèrent que le savoir vient de l'enfant. Certes, ils ont le savoir lacanien dont vous avez parlé, mais au fond, ils pensent que c'est l'enfant qui sait. Et donc, à chaque atelier, on ne sait pas ce qui va arriver. Ils prévoient des choses comme ça, mais rien ne. Voilà. Donc moi-même, je ne savais pas ce qui allait arriver. C'est là qu'il y avait la performance. C'est que j'étais dans une espèce d'improvisation. J'avais longtemps repéré, j'ai repéré un an, etc. Donc je connaissais bien les enfants, etc. Mais en même temps, quand je filmais, je ne savais pas ce qui allait se passer à la fin de la scène. Et je ne savais pas quel intérêt la scène allait avoir avec la suite. Donc j'étais dans une espèce de tension permanente. C'était des journées de tournage beaucoup plus longues que toutes mes autres journées. Et dans une où il fallait que chaque scène pouvait être fondamentale. Et je ne l'ai su que 2 mois plus tard, quoi. Donc ça c'était vraiment la performance, c'était ça, et cette relation avec les enfants qui a été surprenante. Hein. Moi-même, j'ai été surprise, par exemple, avec Alison, de la façon dont elle s'est emparée de la caméra pour rassembler son corps et le mettre en mouvement. Et donc ça a été une surprise, enfin plein de choses. Et c'était là qu'était aussi la performance, quoi. C'était de se dire que quelque chose allait se construire au fur et à mesure avec ses enfants.
Vous dites que vous avez fait un long travail d'approche, comme souvent les documentaristes sur le terrain. Cependant, à l'image, on a l'idée, l'impression, le sentiment que c'est extrêmement facile, fluide, à la fois bien sûr votre dispositif de tournage, vos images, mais aussi votre relation avec ces enfants. Ça s'est présenté d'emblée comme ça ?
Ah non, les premières fois où je suis arrivée, les premières rencontres ont été, par exemple, Amina, pour reprendre l'exemple de la petite Amina qui ouvre le film. Donc la première fois que je suis arrivée, elle m'a fait un câlin, elle était très tendre, justement dans cette confusion des corps. Donc moi j'ai pris ça pour de la tendresse, donc j'ai répondu tendrement, enfin sans excès bien sûr, mais enfin bon. Et puis juste 10 minutes plus tard, il y avait tout ce qu'elle avait sur la table, elle a tout jeté, les verres, le sucre, etc. Donc j'étais un peu effrayée, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, et l'intervenante m'a juste dit tu vois, ce que tu as pris pour de la tendresse, c'était pas forcément de la tendresse, et puis ce que tu prends là pour de la violence, c'est pas forcément de la violence, c'est peut-être une manière de mettre quelque chose entre toi et elle. Voilà, donc ça a été une succession, en fait, comme ça, de moments au départ, comme ça, très, très bizarres, très étranges, et puis c'est grâce aux intervenants, à ce qu'ils en disaient, aux réunions, que petit à petit, j'ai commencé à saisir quelque chose, et je pense que le spectateur, c'est ce qu'il vit aussi dans le film, hein, cette expérience-là de la compréhension, mais il m'a fallu tout ce temps pour arriver à la fin à filmer de façon juste ce qui se passait.
Alors, on parle du dispositif de tournage de Mariana Otero, mais vous, votre dispositif, Meran Tamadon, il est assez différent. Vous ne portiez pas la caméra sur vous, puisque vous êtes à la fois le réalisateur et, vous le disiez, un des protagonistes de l'action. En accueillant 2 jours sous votre toit, il m'a semblé, toute proportion gardée, que vous avez mis des mollas dans un dispositif de télé-réalité. Mais alors, étant donné que le documentaire se donne aussi comme le cinéma du réel, quelle réalité est-ce que vous cherchiez à attraper avec ce dispositif ? Quelque chose de factice, d'artificiel.
Bah, disons que là, c'est un film. Effectivement, c'est donc le dispositif ressemble à une télé-réalité, mais c'est une télé-réalité montée de façon à raconter une histoire et de façon à ce que le film montre un peu les tensions, des moments de joie, de tristesse, de colère, de frustration. Il y a beaucoup de frustration. Donc voilà, donc le film raconte tout ça, raconte un peu tous ces différents moments de proximité qu'on a entre nous, où on a des fois une proximité qui dérange certains spectateurs qui ne veulent pas que moi, disons le spectateur, souvent en tout cas le spectateur occidental, s'identifie à moi, qui suis très très proche donc, de ces personnes. Et donc, cette proximité dérange des fois.
Ils préféreraient vous voir boxer les mollas plutôt que de d'éplucher des légumes avec eux. Mais alors, justement, ouais. Ça s'est passé comment, la vie quotidienne avec ces religieux ?
Bah, disons que ce qui est drôle, c'est que c'est dans tous ces moments de vie qu'il y a une peut-être le début d'une solution, de quelque chose qui fait qu'on arrive à se rapprocher. Et c'est dans les moments de discussion que ça se noue et que ça, disons, il y a un nœud. On n'arrive pas à défaire ce nœud-là.
Vous recommandez aux diplomates de tous les pays d'éplucher les légumes ensemble ?
Voilà, même si les légumes sont idéologiques. Non, mais ça, une bouchée.
Az همین الان هر زیستی مسالمت آمیز معلوم شد. کتابخونه 3 برابر کتابخونه ما، کتاباش هم 3 برابر.
Bien. Il y a un téléphone.
Le livre de l'hospitalité.
Alors Meran Tamadon, que se dit-il en farsi ? Et on entend que vous lisez la tranche d'un livre, le livre de l'hospitalité d'Edmond Jabès.
Oui, oui. Alors, l'idée, c'était donc on a un salon vide et au fur et à mesure du film, ce salon, il se remplit. Donc il y a donc des bibliothèques qui s'installent. Donc j'allais pas ramener ma bibliothèque de Paris. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chez eux, j'ai photographié leur bibliothèque, et j'ai photographié également ma bibliothèque à moi. Et donc c'est des grandes affiches que je déroule et que je colle au mur.
Vous avez fait imprimer, photocopier les bibliothèques.
Ouais, voilà, donc c'est des grandes impressions. Donc, ces bibliothèques sont en train de s'afficher au mur. Eux, ils découvrent. Donc, je leur avais dit, bon, je viens photographier vos bibliothèques chez vous. Mais ils n'avaient pas compris forcément ce que j'allais faire avec tout ça. Bon, je leur avais expliqué, mais bon, c'est difficile à imaginer que finalement, ces bibliothèques-là vont vraiment décorer la maison et qu'il va y avoir leurs livres d'un côté et mes livres de l'autre. Donc, du coup, donc, comme tout ça s'est fait dans la précipitation, il se trouve que j'avais pas vu les impressions. Et je déroule les affiches, je vois que leur bibliothèque est imprimée en plus petit que ma bibliothèque à moi. Et que donc, du coup, leurs bouquins sont trop petits. Et là, je suis très contrarié parce que je voulais un espace très égalitaire dans ma tête. Je me suis dit, bon, ils vont tout de suite dire... Enfin, disons, c'est pas normal.
Manqué,
il faudrait que ce soit de la même taille.
Quoi.
Il faudrait que ce soit de la même taille. Et eux, ils profitent de cette occasion-là. Et on parle, finalement, ça devient très intéressant parce qu'on parle de comment est-ce qu'on va occuper l'espace. Et il fait d'ailleurs cette remarque-là. Il dit, il parle de démocratie et d'égalité. Et sa bibliothèque est 3 fois plus grande que la nôtre. Et puis, il a 3 fois plus de bouquins que nous. Voilà. Donc, c'est ça qui est drôle.
Mais avec vos livres, alors vous ne pouviez pas les échanger puisqu'il s'agissait de photocopies, de photographies. Vous aviez l'idée de faire changer, de faire bouger, comme on dit aussi parfois en psychanalyse, vos interlocuteurs ?
Avec mes livres, avec le contenu.
Avec votre film, avec la conversation, avec le dispositif que vous avez mis en place.
Bah, disons que je J'avais pas cette prétention de vouloir l'échanger, vraiment. J'avais ce que j'avais en tête, c'était plutôt de leur dire que je suis différent et que eux ils l'entendent et qu'ils restent et qu'ils continuent à participer au film et qu'ils partent pas en plein milieu en disant mais c'est quoi cette histoire là, on s'en va. Que je dise voilà que j'habite en France, que je suis pas croyant, que j'ai vécu avec une femme pendant plusieurs années sans être marié, que voilà et que je lis des livres qui sont différents des vôtres et qu'ils entendent tout ça et qu'ils acceptent. Donc le fait qu'ils acceptent ça pour moi c'était le plus grand enjeu et heureusement en tout cas dans le cadre que moi j'ai fixé qui est le cadre de cette maison là ils ont entendu et accepté.
Mariana Otero, vous, votre objectif, alors ça a pu être dans votre documentaire Entre nos mains, qui était réalisé dans une fabrique de lingerie féminine, de chercher à comprendre, de montrer comment ça marche. Là, vous avez employé, à propos d'À ciel ouvert et de votre travail au Courtil avec les enfants psychotiques, aussi ce mot de comprendre. Alors Lacan, lui, de son côté, quand il s'adresse aux analystes, il leur dit qu'il faut se garder de comprendre. Vous, qu'est-ce que vous avez compris ?
Oui, alors moi, je ne suis pas analyste, hein, donc je suis cinéaste. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est comprendre. Hein, c'est d'être plutôt dans le comment que dans le pourquoi. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est une vraie rencontre que j'ai faite avec ces psychanalystes parce que eux, ce n'est pas non plus ce qui les intéresse, le pourquoi. Ce qui leur intéresse, c'est comment. Quelle est la logique de ces enfants, au fond. Et donc moi, ce que j'ai essayé dans le film, c'est ça, c'est faire vivre au spectateur un peu ce que j'ai vécu moi. Hein, c'est-à-dire qu'au début, je pense que le spectateur est un peu perdu, comme je l'étais. Et puis au fur et à mesure, grâce à cette alternance entre les scènes de la vie quotidienne et les scènes de réunion où les intervenants parlent de ce qu'ils ont vécu avec les enfants, de ce que les enfants font, puis aussi il y a des petites apartés entre eux et moi, et bien petit à petit, je pense, le spectateur arrive comme moi à comprendre quelque chose. Alors, c'est un début hein, de compréhension, hein, c'est pas... Mais je pense que ça permet de vraiment d'ouvrir des pistes. Et puis, bon, comme le film est sorti il y a déjà quelques mois, j'ai vu dans les débats qu'effectivement, que ce soit les parents, les proches d'enfants comme ça en souffrance psychique ou d'adultes, enfin, ils sont très nombreux en fait. Hein, et que ce soit les professionnels qui travaillent avec eux ou même des professeurs qui travaillent avec des enfants qui sont comme ça des fois difficiles à saisir, eh bien, vraiment, ils ont dit que ça les aidait. Quoi. C'est pour moi le plus beau compliment qu'on pouvait me faire parce que ça les aidait à comprendre, à commencer à saisir quelque chose de leur rapport au monde. Quoi.
Donc, c'est ça vraiment. Ils comprennent une manière de faire ?
Non, surtout, qui sont ces enfants ? Enfin, par exemple, le rapport à la demande, qui est quelque chose de très compliqué et que les professeurs rencontrent parfois dans leur classe. Un rapport à la demande qui est extrêmement difficile à gérer parce que les enfants disent non. Quoi, hein, et comment faire avec eux ? Pourquoi il y a ça ? Comment ce n'est pas de la violence ? Que si, par exemple, il y a de la violence de la part de ces enfants, au fond, c'est parce que la violence, elle vient surtout de leur interlocuteur. Enfin, voilà, des choses comme ça. Quoi, et par exemple, le rapport au corps, bon, pour revenir sur Alison, c'est cette petite fille que j'avais pas du tout remarquée pendant mes repérages, qui était très éteinte, qui était voilà, si elle était à l'école, on lui dirait voilà, elle est une petite fille amorphe, voyez. Pendant le tournage, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que donc cette petite fille, elle regarde, on la voit d'ailleurs dans le film très bien, elle regarde son bras comme si c'était pas son bras. Hein, elle a vraiment le sentiment que son corps est disloqué, que c'est pas un tout quoi. Au fond, c'est pas une évidence. Déjà, comprendre ça, moi, je trouve, c'est quand j'ai compris ça, ça a été extraordinaire. C'est se dire que, bah oui, nous, on sent notre corps comme un, mais en fait, ça fait pas forcément un. Et donc, cette petite fille qui, elle ne courait pas, elle marchait très lentement, et bien, avec la caméra, au fond, elle saisit quelque chose du cadre. Et elle commence, vous avez parlé des vers de terre au début, c'est ça, elle saisit quelque chose du cadre au début, comme ça, dans l'atelier jardin, elle creuse, elle voit un vers de terre et elle le montre à la caméra. Et je pense que là, elle saisit qu'il y a, voilà. Il y a quelque chose qui borde. Et après, c'est elle qu'elle met dans le cadre. Et ce cadre la rassemble et lui permet de courir. Donc, il y a un plan comme ça où cette petite fille se met à courir. Et c'était extrêmement
émouvant. Danser avec la caméra, autour de la caméra.
Voilà. Donc il y a quelque chose là qu'on peut saisir de à la fois de son rapport au cadre et de son rapport au corps qui, je pense, éclaire énormément tous ceux qui ont affaire comme ça à des enfants en souffrance psychique.
Raphaël Pilosio, producteur, cinéaste, documentariste, vous-même, vous nous avez rejoint dans le studio, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le producteur du film de Mehran Tamadon, iranien, vous participez, vous êtes un des fondateurs de l'atelier documentaire, donc société de production basée à Bordeaux. Vous avez vous-même, je le disais, réalisé des films et puis vous serez d'ici très peu à l'USAS, aux états généraux du film documentaire, ce festival qui a pu proposer à ses spectateurs, à ses festivaliers, à ciel ouvert l'année dernière, dernière de Mariana Otero. Demain soir, ce sera Iranien qui sera projeté là-bas. Parlez-nous de ce festival, puisque à la fois Mariana Otero a filmé un espace hors du commun, un espace exceptionnel, le Courtil en Belgique. Mehran Tamadon, lui, il a créé de toutes pièces un espace hors du commun en Iran. Qu'est-ce qu'il y a de hors du commun à l'USAS ?
L'USAS, disons que c'est un festival assez unique parce qu'il est rassemblé vraiment par la passion pour le documentaire, on peut dire. C'est-à-dire que il n'y a pas de compétition, hein, c'est un festival non compétitif, c'est un festival qui rassemble des gens, des professionnels, mais aussi des amateurs, des passionnés, des gens qui se posent des questions autour du cinéma documentaire. C'est un lieu un peu à part parce qu'il se met un peu en dehors du marché, on va dire. Voilà, il n'y a pas de marché du film, il n'y a pas de... Et c'est un endroit où, du coup, les gens se voient des films, se posent des questions, réfléchissent. Et il y a des palettes de films très, très différents qui sont montrés à l'USAS, que ce soit dans des histoires. Par exemple, chaque année, il y a des programmations qui sont historiques autour du documentaire, des focus sur des pays. Une sélection, et ça, je trouve ça très bien, qui est faite par des réalisateurs et qui change tous les 2-3 ans. Je crois que Mariana a fait la programmation
Non, je n'ai jamais fait la programmation.
Pas encore. Ah, mais c'est une idée lancée aux organisateurs du festival.
Alors, c'est une idée qui est lancée. Mais disons, voilà, il y a des cinéastes qui
proposent leur
année,
regard.
Proposent leur regard et leur sélection parmi des films où il n'y a pas de... voilà, où tout type de films sont possibles à être montrés.
Alors, il y a un film... Pardon, oui.
Non, et du coup, voilà, ce qui est vraiment à part, c'est cette... C'est un endroit où encore on discute vraiment des films de cinéma. C'est-à-dire que il y a beaucoup de festivals où il y a un débat avec le réalisateur et puis ça s'arrête là. Là, il y a quelque chose qui se poursuit dans un petit endroit très convivial où il y a 3 bars à l'USAS où tout le monde se retrouve et tout le monde discute des films qu'on vient de voir. Voilà, il y a ce côté très convivial.
Donc l'USAS, un festival hors du marché. Cependant, je voudrais qu'on en dise un mot à travers votre casquette de producteur d'Iranien, le film de Mehran Tamadon. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, produire un documentaire, et singulièrement celui-là, qui a mis plus de 2 ans, comme il explique
Beaucoup plus que 2 ans, parce qu'en fait, on a commencé en 2009 avec Mehran à travailler sur le film. Quand il venait juste de finir.
Il était prêt à attaquer en 2010 et puis ça ne s'est pas passé comme prévu.
Voilà, Basidji. Qu'est-ce que ça veut dire produire un film comme ça ? C'est d'abord un très long travail d'écriture où déjà beaucoup, beaucoup de choses qui seront dans le film sont déjà posées sur papier. Donc ça, c'était un long travail. Après, sur un film qui est un petit peu particulier comme Mehran, moi, j'avais une inquiétude. Tout à l'heure, vous en avez un peu parlé, mais je pense qu'il y avait vraiment une question, moi, qui me taraudait un peu, qui était quand même la question du danger, que j'avais beaucoup de mal à appréhender, parce que moi, étant français, n'ayant jamais mis un pied en Iran...
Vous voulez dire que vous lui aviez confié du matériel et vous espériez le voir revenir ?
Non, c'était pas une question de matériel, c'était une question vraiment, quel risque il prenait ? Et d'ailleurs, je sais pas, j'ai l'impression que tu as un peu oublié, mais moi, ce que j'avais demandé à proposer à Mehran à l'époque, c'était qu'il fasse les démarches pour avoir la nationalité française qu'il n'avait pas encore. Que tu pouvais avoir, que tu as eu tout de suite d'ailleurs. Mais voilà.
Oui, moi, vous avez bien 2 passeports dans le film.
Maintenant, ouais.
Mais voilà, si vous voulez, voilà, il y a aussi du coup des questions comme ça très concrètes de dangers qui peuvent se poser, qui se posaient sur la réalisation d'un film comme celui-là.
Tu connais la chanson à la Clairefontaine ?
Je m'en souviens plus très bien. C'est quoi ?
Je l'ai déjà chanté à la Clairefontaine. On allait promener. J'ai trouvé de si belles corps. Je me suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime. Jamais je t'oublierai. C'est ça ? T'as perdu les paroles.
Ouais.
Et que t'as un papa.
Oui.
Où? Chez toi.
Non, pas chez moi.
T'es tout seul.
Non, ouais. J'ai un compagnon.
C'est qui? Comment il s'appelle?
Alors, dans cet extrait d'À ciel ouvert, on entend la chanson et les questions d'Evan qui vous sont posées. C'est votre voix qu'on entend. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces apartés avec les enfants, avec Evan, en particulier Mariana Otero ?
Oui, alors ça, c'est vraiment une scène. Enfin, pour moi, c'était un moment extrêmement fort hein, dans le tournage. C'est à peu près à la fin du tournage, une semaine avant la fin.
Vous avez compris un peu comment faire. Et vous dites, tu connais la chanson, vous dites, ah non, je ne me souviens pas. Et comme ça, c'est à lui de,
ouais, ouais. Mais c'est de surtout vous parler. Lui, c'est surtout lui qui a changé, en fait. C'est... Parce que ce petit garçon, au début du tournage, ça faisait pas très longtemps qu'il est arrivé au Courtil. Et il ne regardait pas les autres du tout. C'est-à-dire que, et puis en particulier moi, c'est-à-dire j'avais l'impression vraiment que son regard il glissait comme ça sur la caméra. Et c'est un petit garçon, on le voit au début du film, hein, il déborde de partout. Quand il parle, ça n'a pas de queue de tête, ça part dans tous les sens. Il fait caca dans sa culotte. Enfin bon. Alors évidemment, au départ, comme ça, quand on voit, on se dit bah, c'est un petit enfant agité, etc. Et puis, mais évidemment, c'est autre chose. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que j'interroge une intervenante qui dit bah, oui, elle parle de la jouissance. Enfin, là, on commence à voir, à décaler le regard, quoi. Et ce petit garçon, au fur et à mesure, en 3 mois, il bouge énormément. Enfin, il évolue, en particulier à l'atelier musique, mais aussi au quotidien, puisque le travail au Courtil se fait dans les ateliers, mais aussi au quotidien, du lever au coucher. Et là, donc, dans cette scène, tout d'un coup, je rentre dans sa chambre, et là, il me parle, il me regarde, et on a un dialogue. J'ai l'impression vraiment que ce petit garçon, bah, il s'était construit un moi, et que du coup, l'autre pour lui existait. Et c'est la preuve de cette évolution, quoi. Donc, c'était extrêmement émouvant, quoi.
Mérane Tamadon, à l'instant, Mariana Otero parle de la jouissance chez les enfants en souffrance psychique, comme elle dit. La jouissance, c'est ce trop qu'il y a chez eux dans leur vie. Vous, au contraire, disons un mot du montage, puisque vous avez aussi ce rôle-là, vous en disiez quelque chose tout à l'heure, dans votre film iranien, vous êtes monteur, et plutôt que les moments où votre discours est particulièrement convaincant, vos morceaux de bravoure, Mérane Tamadon, vous avez privilégié les moments d'action, les moments d'émotion pour susciter, dites-vous, le manque. Alors en quoi la vérité qu'il y a dans votre film, que vous avez cherché, s'enracine-t-elle, non pas dans le trop, mais dans le manque ?
Bah, disons que si à un moment donné, le spectateur, il devient actif, parce que c'est l'effet que ça fait, c'est beaucoup des spectateurs qui voient le film, ils ont envie d'ouvrir le cadre et de prendre ma place. Alors qu'est-ce qui fait ça ? C'est que bah, c'est ce manque. C'est ce manque que je crée, donc c'est ce manque dans ce que je dis pas. Et c'est la frustration qui fait qu'on a envie de participer. Et pour moi, un film... donc c'est comme ça que je conçois un film réussi. C'est un film où le spectateur, il n'est pas uniquement spectateur, mais qu'il est en même temps acteur, quoi.
À présent, autour de la grande table d'été, c'est l'heure de la chronique d'Eau de la Vigne à première vue qui s'entretient aujourd'hui avec la critique d'art Corinne Rondeau.
Corinne Rondeau est critique d'art et maître de conférences en esthétique et sciences de l'art à l'Université de Nîmes. Collaboratrice régulière sur France Culture, elle participe avec passion et enthousiasme au débat critique de l'émission La Dispute d'Arnaud Laporte. Au téléphone, Corinne Rondeau répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain ? À première vue, Corinne Rondeau, vous nous répondez.
C'est très difficile de répondre à ça. Mais la première chose que je pourrais dire, c'est un souvenir d'un tableau qui était là depuis très longtemps et dont je me suis rappelée par rapport à un autre artiste. Donc c'est toute une mise en abîme, on va dire. C'est le tableau de Paolo Uccello, le dragon, Saint-Georges et le dragon, celui de la National Gallery. Et j'étais en fait en train de regarder un tableau en me posant la question de celui qui regardait le tableau à l'intérieur du tableau. Et dans le Paolo Uccello, on a un personnage, la princesse, qui regarde la scène de Saint-Georges piquant le dragon. Et mon obsession était en fait de savoir où taper la lance. Et quand j'étais allée à Londres, je ne suis pas arrivée à déterminer si c'était dans l'œil ou dans le museau du dragon. Et ça m'a toujours... ça m'est resté comme une sorte de doute. C'est-à-dire, sur l'image, on est toujours à l'intérieur d'un regard qui est en train de dire qu'est-ce qu'on voit. Il y a toujours le doute de savoir si ce qu'on voit est vraiment ce qu'on y voit, puisque cette lance, elle est, je ne sais pas exactement encore où elle est. Et donc, depuis, j'ai œuvré, je dirais, à travers les tableaux, surtout de la peinture classique et de la Renaissance italienne, dans laquelle il y a cette circulation du regard, cette forme des tableaux qui sont toujours en regard, qui est en train de nous appeler pour rentrer dans la surface, à faire son voyage, à faire en sorte que les mots qui vont venir pour traduire sa perception tiennent toujours dans une certaine cohérence. Donc le doute, qui est aussi une forme de sensibilité, c'est de se dire que il n'y a rien de plus vrai que la traduction qu'on en fait, même si ce qu'on en dit n'est pas forcément juste. Et ça, c'est une des choses qui m'a toujours marquée et que m'a donné l'art classique, parce que j'ai pas du tout eu une sensibilité à l'art contemporain tout à fait immédiate, on va dire.
C'était à première vue la chronique d'Eau de la Vigne. Mais alors votre première vue, Mariana Otero, votre rencontre décisive avec le cinéma du réel, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Eh ben, en fait, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que je suis arrivée au cinéma du réel par la fiction. Enfin, moi, depuis toute petite, j'allais au cinéma le samedi soir, hein, comme c'était régulier, comme la messe le dimanche. Et enfin, j'allais pas à la messe. Hein. Enfin,
si, mais votre alors, messe, bref. C'était le cinéma.
Voilà. Et du coup, j'ai toujours eu envie de faire du cinéma. Et pour moi, le cinéma, c'était la fiction. Et en sortant de l'IDEC, j'ai été très déçue par la manière dont on travaillait dans les fictions. Il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, en fait. Et puis, on m'a mis une caméra dans les mains et on m'a dit « Est-ce que tu voudrais pas aller filmer des répétitions de théâtre à la prison de Fleury-Mérogis ?» Et là, j'ai découvert le documentaire. Et donc, j'ai découvert le documentaire en le faisant. Et c'est après que là, du coup, j'ai vu plein de documentaires Wiseman, etc., etc.
D'où votre rapport aussi, votre goût pour l'institution ? Que ce soit l'usine ou que ce soit cet établissement, le Courtil.
Alors ça, c'est parce que
ça. À Frédéric Wiseman qui aime filmer. Ah
oui,
au départ,
ah oui, d'accord.
Les institutions.
Oui, non, je pense que ce qui m'intéresse vraiment, c'est le rapport du singulier au pluriel et la place du sujet dans nos sociétés. C'est plutôt ça. Mais voilà, la rencontre du documentaire. En fait, j'ai eu une rencontre avec le cinéma et il s'avère que dans la pratique, ce que j'ai aimé faire, c'est du documentaire.
Et avec des images cachées. Puisque c'est aussi le sujet d'un de vos précédents films, Histoire d'un secret. Mmh. On vous a caché des images, on vous a caché des informations, et depuis, vous êtes en quête de nouvelles images ?
Peut-être, oui. En tout cas, cette volonté de voir derrière l'apparence et d'aller chercher ce qui est invisible, cette idée qu'il y a quelque chose à voir au-delà de ce qu'on me dit ou de ce qu'on me montre, peut-être ça vient de là, oui.
Mère Anne Tamadon, vous, le film documentaire, peut-être parmi tous ceux que vous avez pu regarder, qui a été déterminant dans votre carrière d'architecte défroqué, disons-le. Hein. Vous êtes tourné après des études d'architecture vers le documentaire. Vous en souvenez de cette rencontre avec le cinéma du réel ?
Disons, moi, c'est un film qui est entre le documentaire et la fiction, qui est le film de Abbas Kiarostami, Close Up. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bah, en fait, c'est
magnifique.
Ce film. Oui, c'est un très beau film. C'est ce film qui m'a donné envie de faire des films. Disons, plus généralement, Kiarostami, il donne envie de faire des films dans le sens où on voit que c'est très accessible. Disons, donc il m'a donné déjà envie de faire des films. Et puis, surtout que dans Close Up, il fait quelque chose. Je ne vais pas raconter l'histoire là parce que c'est un peu long, mais grosso modo, il y a un des personnages qui est donc c'est quelqu'un qui se fait passer pour un réalisateur donc dans la vraie vie et qui est donc il y a un procès contre lui, ça c'est une réalité, et donc la caméra de Kiarostami et la façon dont il filme change un peu le dessin de cet homme qui au départ voulait devenir réalisateur et qui devient acteur. Voilà, bon, c'est un peu mal expliqué parce que je le fais.
Mais on entend des échos avec le projet de votre film iranien.
Oui, et donc finalement, comment est-ce que le documentaire transforme aussi la vie ? C'est ça qu'il fait avec ce film. Et c'est aussi ça que j'essaie de faire dans mes documentaires, de transformer la réalité.
Merci beaucoup à tous deux. Si vous ne les avez pas encore vus, Iranien de Mehran Tamadon et À ciel ouvert de Mariana Otero pourraient bien changer votre vie à jamais, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Donc, À ciel ouvert, Mariana Otero, le DVD sort le 2 septembre avec un coffret avec un livre autour du film, avec des entretiens. Et Mehran Tamadon, Iranien, votre film, il est donc demain soir projeté à l'USAS dans le cadre des états généraux du film documentaire et en salle le 3 décembre. tout de suite à 13h30 sur France Culture. C'est l'heure de la session live de Mathieu Conquet qui nous propose aujourd'hui d'écouter Rodrigo Amarante, qu'il considère comme le cheval libre de la musique brésilienne et qui chante en plusieurs langues, portugais, anglais et même français, dans cette traduction de Georges Brassens au Nao Pedido de Casamento, la non-demande en mariage.
Pagaram tal sacrilégio, uma aliança em cada mão, a jura ordem de prisão em domicílio. Pro inferno Amélia, secas amas que deixam frias suas camas pra pilar. A mão pra que firmar num pergaminho essa união? Vênus presa perde o viço e com chouriço frita o juízo cai na comida. Por nada nesse mundo eu vou despetalar sobre o escargot. Ah, Margarida, cai o véu com ele o encanto, o segredo da sereia é o canto de Melusina. O batom das cartas perde a cor entre uma e outra páginas do nu velcozinho. Gelonner do pato do monde da mão, me gravam para no zubadão parchemon. É muito fácil, a gente pensa, largar no fundo da dispensa numa conserva o belo fruto proibido. Perdeu o gosto, foi cozido, não se preserva. De uma empregada eu não preciso, tratado a pão de ló, aviso, não, não, não. Quero nunca ser como uma noiva eterna, intento a dona dos meus pensamentos, eu sempre vê. Eu tenho a honra de não te pedir a mão, pra que firmar num pergaminho essa união? Eu tenho a honra de não te pedir a mão, pra que firmar num pergaminho essa união? Gelonner do no pa, todo mundo tá mão. Me gravam pa no nosso batão parchemon.
C'était la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Rodrigo Amarante qui sera en concert le 26 septembre au 106 à Rouen, le 1er octobre aux Internationales de la guitare à Montpellier. Quant à son album, il s'intitule Cavallo.
Je suis content de te voir.
Il faut que je te parle.
Justement, je me disais que peut-être après on pourrait aller dîner.
Non, maintenant.
Bah, je t'écoute.
Pas ici, viens dans mon bureau.
Tu déménages ?
Non. Je pars demain matin pour le Brésil.
C'est fou, hein, cette manie des départs que t'as, toi.
Je me suis engagée pour une mission. Et
tu reviens quand ?
Je rentre pas.
Comment ça ?
Ça sort demain. Le président a mis en place un système d'écoute ici même. En toute illégalité.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ?
Et alors nous avons, nous, mis un système d'écoute en toute légalité en route dans le studio numéro 1 de France Culture pour recevoir Nicolas Castro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur du film « Des lendemains qui chantent », cette comédie politique, nostalgique, caustique, comme vous le dites vous-même, où l'on retrouve en particulier, en vedette, Pio Marmaille et Laetitia Casta qu'on entendait à l'instant. C'est notre deuxième partie de la grande table. Nicolas Castro, après avoir été livreur de sandwich, producteur d'émissions de poker, et vous aussi réalisateur de documentaires, vous êtes aujourd'hui auteur-réalisateur d'une comédie, l'histoire d'une bande de militants socialistes qui, du 10 mai 1980 au 21 avril 2002, courent après l'amour, après le fric, après leurs idéaux au cœur des années Mitterrand. C'est un film frais du jour dans les salles obscures et on entendait quelque chose de cela à l'affiche des lendemains qui chantent. Il y a un casting 5 étoiles, mais alors composé de stars venues de différentes galaxies. On retrouve réunis une ex-top modèle, Laetitia Casta, deux humoristes, Gaspard Proust et Ramzi Bedia, et puis des acteurs pur sucre, André Dussolier et Pio Marmaille. Bref, des comédiens au parcours très différent que vous avez associés. Mais alors avec quelle réaction chimique en tête ?
Bah, disons que c'est vrai que je trouvais intéressant l'idée de mélanger un petit peu tous ces acteurs qui venaient d'horizons différents, comme vous l'avez souligné. Et ensuite, bon, pour le rôle principal, Pio Marmaille, je trouve vraiment que c'est l'acteur le plus doué de sa génération. C'est un acteur absolument merveilleux qui joue à l'instinct, qui a une sensibilité, qui est d'un naturel déconcertant, toujours très juste. Donc vraiment là-dessus, j'ai pas hésité et j'ai eu la chance surtout qui... En fait, j'ai eu globalement beaucoup de chance sur le film puisque les acteurs dont j'avais envie m'ont pratiquement tous dit oui. Donc voilà, j'espère que en tout cas et cette alchimie dont vous parlez, elle marche surtout, enfin principalement. Et c'est important parce que c'est quand même une histoire d'amitié aussi entre Ramzi et Pio qui jouent Sylvain et Léon dans le film qui jouent deux amis d'enfance et c'était important qu'il y ait cette alchimie, qu'il y ait cette complicité et c'est vrai que ça a marché tout de suite entre eux et ça a été un vrai plaisir de les diriger entre guillemets parce qu'ils sont pas toujours faciles à diriger parce qu'ils partaient comme ça dans des improvisations voilà, ils s'entendaient très très bien donc il y avait jamais de prise pareille.
Vous voulez dire que la scène de séduction par exemple au début du film où Sylvain Ramzi Bedia essaie de montrer ses talents de séducteur à son copain Léon Pio Marmaille, c'est de l'improvisation ou c'était vous qui l'avez écrite ?
Non, c'est moi qui l'ai écrite. Ensuite, c'est vrai que Ramzi, il a cette grâce et ce talent de rajouter à chaque prise des petites choses de son cru. C'est vrai qu'on a après au montage on a l'embarras du choix, c'est assez merveilleux. Bon, le problème c'est qu'on a envie de tout garder, mais voilà, à l'arrivée il faut quand même faire un film d'1h34 et pour le reste, bah, c'est vrai que Laetitia Casta, moi je l'avais beaucoup aimée dans son interprétation de Brigitte Bardot dans ce très joli film qui est Gainsbourg vie héroïque, et je trouvais que c'est vrai qu'au cinéma elle n'était pas toujours utilisée dans l'idée que moi je l'avais, c'est-à-dire vraiment comme ces actrices italiennes des années 60 avec ce glamour, cette féminité, pareil, cette beauté, mais cette beauté qui se la raconte pas, qui la ramène pas. J'avais envie moi de lui faire jouer justement ce personnage de jeune conseillère de François Mitterrand,
jeune énarque,
et c'est vrai que j'étais ravi de cette collaboration. Ensuite, bon, il y a beaucoup de comédiens dans le film, donc je ne pourrais pas parler de tous, mais c'est vrai qu'André Dussolier, c'est tellement un bonheur pour un premier film comme ça, d'avoir la chance d'avoir un
syndicaliste égaré à la fin de sa carrière.
Absolument, et il est tellement perfectionniste que, voilà, qu'il vienne sur un premier film pour 5 jours, ou que ça soit, enfin, j'imagine, évidemment, sur des films où il a le rôle principal, ça doit être la même chose, mais il a un souci de, voilà, du détail. Donc, on a beaucoup parlé, évidemment, des syndicalistes, parce qu'il avait peur, peut-être, par rapport à l'image qu'il a, de ne pas être tout de suite crédible. Donc, on a étudié la manière dont s'habillaient, la manière dont parlaient même les syndicalistes, et notamment chez Manu France, puisque le film,
démarre à
Saint-Étienne en 81. Et André Dussollier joue une espèce, on va dire, d'Henri Krasucki, pour ceux qui se souviennent de ce personnage, voilà, qui était un leader, le leader de la CGT dans les années 80. Et moi, ce qui me frappait, c'est que loin de la caricature, enfin, pas de la caricature, mais en tout cas de l'image qu'on peut avoir des ouvriers, des syndicalistes de l'époque, c'était des hommes qui avaient toujours une grande dignité, qui au contraire portaient des vestons, des cravates, enfin, qui s'exprimaient évidemment très très bien. Et c'est vrai qu'ensuite, on a un peu esquinté, et notamment Krasucki, qui a été, parmi d'autres, la victime du bébé de show. On en a fait une espèce d'excité qui voulait toujours faire la grève. C'était pas du tout ça. En Krasucki, c'est un type extrêmement touchant. Et quand on connaît un petit peu son histoire, notamment voilà, ce qui s'est passé pendant la guerre, il était résistant, déporté. Enfin bref, c'est un homme qui est toujours resté d'une grande dignité. Donc je trouvais qu'André Dussollier avait cette dignité naturellement et était parfaitement indiqué pour l'incarner.
Alors, il y a la classe ouvrière, on l'entend dans votre film. Vous parlez de l'héritage des comédies italiennes avec la présence, la beauté sans afféterie de Laetitia Casta dans Des lendemains qui chantent. Mais alors, cette classe ouvrière, dans le sujet du film, c'est aussi un sujet partagé avec la grande comédie italienne, Nicolas Castro. Une classe ouvrière qui, chez vous, ne va pas au paradis comme chez Elio Petri. Où va-t-elle dans Les lendemains qui chantent ?
Disons que... Je ne me suis pas tant posé la question d'où elle allait, mais surtout qui l'accompagnait. Et c'est vrai qu'historiquement, la gauche et le Parti socialiste ont longtemps tenu ce rôle d'accompagner la classe ouvrière, de la représenter, de défendre ses intérêts. Ensuite, moi, je ne cherchais pas à savoir qui avait raison, en tout cas, enfin, du point de vue du Parti socialiste. Mais ce que le film raconte un petit peu, c'est comment le PS a un petit peu délaissé cette classe ouvrière. Pour quelles raisons de stratégie politique ? Et surtout, comment d'autres partis qui ont moins ma sympathie, aujourd'hui, ont récupéré cet électorat. Et voilà, et c'est ce que le film, par petites touches, essaye de raconter. Alors, évidemment, je veux vraiment dissiper tout malentendu. Le film est avant tout une comédie. Donc, il aborde comme ça plein de sujets des années 80-90 par petites touches. Il y a évidemment une dimension politique, mais le film parle aussi de la transformation, de la mutation de la presse.
Oui, je crois qu'il y a un article qui n'était pas très gentil avec votre film, qui l'a comparé à un album à colorier des années 80-90, mais il y a aussi ce plaisir, peut-être plutôt de l'album Panini, des
oui,
vignettes
complètement.
À collectionner.
C'est des petites Madeleines de Proust. J'avais envie que le spectateur soit replongé de manière divertissante dans cette époque. Et c'est vrai que peut-être qu'on peut reprocher au film de ne pas aller suffisamment loin dans chacun des sujets, mais pour ça, il aurait fallu que je fasse à ce moment-là un film de 6 heures. Et c'est vrai que bon, c'est un autre
projet. Un film documentaire, politique.
Absolument.
Mais alors précisément, là, on est dans une comédie. Il y a tous ces éléments du décor, du contexte également que vous vous plaisez à collectionner, à faire apparaître et scintiller dans les séquences qui s'enchaînent. Mais qu'est-ce qu'il y a de personnel ? Quel souvenir personnel du mitterrandisme en particulier, peut-être de ses débuts, vous avez mis en image dans votre film, Nicolas Castro ?
Alors, pour être honnête, moi, j'avais 8 ans le 10 mai 80, donc je ne suis pas vraiment de cette génération. En revanche, elle m'intéresse énormément sur un plan historique, sur un plan politique, puisque j'ai vraiment le sentiment que le 10 mai 80, ça reste la dernière grande période où il y a eu un espoir d'un changement de régime, d'un changement de politique. Je rappelle le slogan de François Mitterrand qui était « Changer la vie ». C'était sans commune mesure, évidemment, avec le programme de François Hollande en 2012, même si il s'est beaucoup inspiré, il s'est beaucoup revendiqué de François Mitterrand. Mais l'époque fait que l'ambition n'était plus du tout la même. Il y avait un véritable espoir, un véritable enthousiasme en 80, et évidemment, on ne l'a plus eu après.
Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies des chaînes de l'argent, écrire notre histoire.
Alors, Changer la vie, ce tube de 1977 qu'on a évidemment chanté en 1980 et qu'on chante dans votre film.
Oui, absolument, c'était l'hymne du PS et qui est merveilleusement interprété a cappella par Laetitia Casta. Qui avait vraiment bien préparé.
Elle connaissait les paroles avant le tournage ?
Oui, elle,
elle connaissait ses classiques ?
Avant le scénario, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, il se trouve qu'elle l'a chanté merveilleusement bien. Et c'est vrai que ça fait partie de ces petites madeleines, ces petits souvenirs, cet enthousiasme de 81, derrière lequel on court aujourd'hui et qu'on essaye de rattraper, qu'on essaye parfois de recréer un petit peu artificiellement. C'est vrai qu'il est plus difficile à trouver, en tout cas, j'ai l'impression, chez les jeunes et ou même chez les gens de ma génération qui sont un peu plus désenchantés, désabusés, on va dire.
Et précisément l'idée de votre film qui démarre dans l'allégresse, l'euphorie et qui connaît les illusions perdues, puisqu'il y a une référence à Balzac explicite dans votre film, de la part précisément de Sylvain Ramsey-Bédia. Cette idée de départ du film, elle vous a été soufflée par l'élection de François Hollande en 2012 qui a ranimé des souvenirs enfouis ?
Non, parce qu'en fait, j'avais vraiment commencé j'avais rédigé les premières versions du scénario avant l'élection de François Hollande. Ensuite, c'est vrai que bon, je ne prenais pas beaucoup de risques, puisque la gauche qui arrive au pouvoir et qui déçoit une partie de son électorat, c'est un grand classique. Je crois que déjà le cartel de gauche en 24 avait déçu certains de ses électeurs. Vraiment, je voulais revenir là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont parlé de la désillusion, de la déception de la gauche, de la trahison. Il y a Serge Halimi, dès d'ailleurs 83-84. Des gens comme Guy Hockenheim, Serge Halimi, Félix Guattari font déjà ce constat. Donc moi, évidemment, je ne me situe pas du tout j'ai pas du tout la prétention d'arriver avec une thèse originale ou un concept original. En revanche, moi, ce qui m'intéressait, c'était partir de ce constat de pourquoi la gauche déçoit. Comment un type comme Bernard Tapie a pu se retrouver ministre d'un gouvernement socialiste. Voilà, c'est ça qui m'amusait. C'était de voir aussi comment la presse avait accompagné ce mouvement. Pourquoi ? Et évidemment qu'on pourrait faire des heures et des heures, des documentaires entiers.
Vous en avez fait des heures et des heures de documentaires, Nicolas Castro, sur les années 80.
Sur ce sujet.
Mais vous avez fait une série « Je hais les années 80
oui, ».
Alors
oui,
vous
oui.
Y réglez des comptes
Non, je ne
C'était en fait une
personne.
Déclaration d'amour.
Non, ce que je veux, c'est, une fois de plus, j'insiste là-dessus, c'était aborder toutes ces questions qui ont déjà été abordées de manière très sérieuse par des gens bien plus brillants que moi. Mais moi, je voulais aborder ces questions avec de la comédie. Parce que j'avais le sentiment que, jusqu'à maintenant, le cinéma français ne s'était pas emparé vraiment de cette période, en tout cas avec cette ambition d'en faire la comédie. Et j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur les comédies italiennes, qui justement, pendant les années 60-70, avaient cette ambition, cette volonté de parler de ces sujets-là, de la classe ouvrière, des journalistes, de l'évolution de la politique, des renoncements, de la perte des illusions, mais avec toujours un angle de comédie. Donc c'est vrai qu'après, il y a des gens qui aimeront moins cet axe, qui aimeront moins cet angle, parce qu'ils ont l'impression qu'on va pas assez en profondeur. Mais moi, j'avais pas du tout c'était pas l'ambition de mon film. Donc voilà, moi, je voulais vraiment qu'on s'amuse, qu'on repense à cette période, et en même temps, au passage, essayer d'être un peu caustique, un peu mordant, et essayer d'aller taquiner un petit peu quelques grandes figures, quelques vaches sacrées de ces années 80-90.
Paris, enfin. Cette fois, je l'ai pas loupé le 10h55. Olivier habite un loft à la Bastille, mais au fond, m'explique-t-il, à part la barbe, il n'a pas changé.
Ouais. Super. Ouais.
Fini la politique à la papa. L'avenir appartient aux publicitaires. Alors Olivier poursuit le combat en infiltrant une agence de pub, la meilleure, celle de Jacques Favard. Mais qu'est-ce que tu bois de doux, dis donc ? C'est lui. Couscous Garbite, c'est bon comme la Badie ? C'est lui. La Force Tranquille, c'est encore lui.
Évidemment, on se situe dans une démarche politique. Mais si on veut attirer les jeunes, ça doit pas trop se voir. C'est pour ça qu'on essaie de trouver d'autres formes d'engagement plus festives. Avec Touche pas à mon pote, par exemple. Je suis persuadé qu'on
peut... Qu'est-ce que vous avez dit, là ?
Touche pas à mon pote.
Alors, dans cet extrait, on entend parler d'Olivier, le frère de Léon, votre héros. C'est aussi une histoire de frères au destin particulier, les frères Candel. Et cet Olivier passe du trotskisme, de l'entrisme au sein du PS, à la publicité la plus commerciale, la plus capitaliste, dans son loft donc de la Bastille, comme on l'entendait ici dans cet extrait. Vous, au contraire, Nicolas Castro, vous êtes passé de la production d'une émission de télé, je le disais, dédiée au poker, à une comédie aux accents politiques. Comment vous expliquez cette conversion ?
Là, vous essayez de me coincer. Mais en fait, c'est un épisode de ma courte carrière. Non, il se trouve que moi, j'ai toujours rêvé et voulu faire du cinéma. Et dès l'âge de 20 ans, c'est vrai que J'ai commencé à travailler dans une société de production. Après, les événements, bon, j'ai travaillé pour la télévision. Il se trouve que j'étais moi-même joueur de poker et donc j'aimais bien ça. Et les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvé effectivement à produire une émission de poker. Mais bon, sinon, j'ai fait quand même beaucoup de documentaires qui reprennent un petit peu les thèmes qu'on retrouve dans le film.
Et vous prépariez le travail parce que c'est des oui. documentaires qui prennent comme décor, comme contexte, ces années 80.
Oui, absolument. C'est vrai que j'aime bien toujours l'idée de raconter une époque parce qu'il me semble... Enfin, je me demande toujours dans quelle mesure, à quel point nous sommes déterminés, nous sommes conditionnés par l'époque dans laquelle on vit. Et donc, c'est vrai que c'est toujours... après, moi, en tant que cinéaste, j'essaye de comprendre les parcours. C'est pour ça que j'avais envie aussi de suivre quatre parcours avec quatre personnages qui ont chacun, j'espère en tout cas, qui ont chacun leur cohérence, qui ont chacun leur raison. Ensuite, chacun jugera de ses parcours. Mais moi, j'ai pas de réponse à ça. Je suis toujours partagé. Là, c'est vrai que le personnage de Gaspard Proust, enfin, le personnage... d'Olivier,
qui est joué par Gaspard Proust.
Il m'a été un peu inspiré par ces Guy Hockengem, qui les appelait un peu les renégats de mai 68. Parce que je me demande toujours qui a raison, en fait. Est-ce que c'est Alain Krivine, qui finalement n'a pas changé de cap politique depuis le début des années 60 et reste droit dans ses bottes, dans un militantisme trotskiste qui ambitionne encore de faire la révolution, de changer véritablement la société? Ou alors, est-ce que c'est Serge Julie ou Laurent Geoffrin, des gens qui...
À qui vous taillez des sacrés costards, quand même, dans des séquences assez savoureuses.
Oui, bon, bah, disons que, voilà, mais c'est... Oui, j'essaye d'aborder ça avec humour, mais je me demande... Et une fois de plus, je ne sais pas du tout qui a raison. Et d'abord, est-ce qu'on peut dire que les uns ont plus raison que les autres? Mais voilà, ces parcours où ce sont des gens qui ont accompagné un petit peu leur époque, qui ont suivi un peu plus le sens du vent... Et qui ont évolué. Alors certains parlent d'évolution, d'autres parlent de reniement. Après, c'est une question de jugement.
Mais comment, qu'est-ce qui chez vous, et peut-être vous dites qu'on est déterminé par une époque donnée, qu'est-ce qui chez vous fait que vous êtes toujours et peut-être à jamais un homme des années 80?
Non, mais je ne sais pas si je suis un homme des années 80 parce que je n'ai pas un goût particulier pour cette époque. Je trouve qu'elle a... elle est fascinante dans la mesure où
Vous regrettez le Minitel ?
Non, je ne regrette pas le Minitel. Encore que c'était un temps où la France était capable de grandes innovations technologiques. Non, mais plus sérieusement, ces années 80, elles sont intéressantes, même dans l'écho qu'elles ont avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment pour moi l'époque des grandes mutations. C'est la fin pratiquement des illusions politiques.
La fin de la lutte des classes.
C'est la fin de la lutte des classes.
C'est dit par Dussolier.
Voilà, c'est finalement un moment où la gauche n'arrive pas à se réinventer, à se renouveler sur le plan idéologique et n'apporte pas de réponse à des phénomènes qui sont la mondialisation et la construction européenne. C'est ça un petit peu, à mon sens, la grande déception qu'on peut avoir vis-à-vis de la gauche aujourd'hui.
C'est deux sujets qui sont d'ailleurs un peu hors champ dans votre film.
Oui, complètement, qui sont là en filigrane et que je n'avais pas envie non plus parce qu'une fois de plus, je voulais faire une comédie sur l'époque et je voulais pas faire de film à thèse ou développer ces choses-là parce qu'il n'y avait pas la place. Moi, je cherche avant tout à divertir et si, au passage, évidemment, je peux faire un petit peu réfléchir aussi, c'est formidable. Mais
qu'est-ce que c'est l'ambition politique pour aujourd'hui de votre film ?
Bah, c'est de montrer comment finalement et pourquoi on est arrivé on est passé d'un 10 mai 81 avec un espoir, avec une gauche triomphante, à le 21 avril. Puis c'est vrai que l'actualité récente apporte un peu d'eau au moulin du film puisqu'on voit que le Front National n'a jamais été aussi haut, fait 25%. Et c'est de comprendre finalement comment on en est arrivé là. Comment, parce que justement, pour des raisons stratégiques, la gauche a un petit peu abandonné ceux qu'elle était censée défendre, dont elle était censée défendre les intérêts, comment cet électorat a été récupéré par d'autres partis. Et puis, ce que le film aussi montre un petit peu, c'est comment les communicants ont pris le pouvoir. Comment, parce que justement, le clivage droite-gauche s'estompant, les communicants ont été obligés un peu de prendre le relais pour faire exister de manière presque artificielle des différences qui aujourd'hui n'ont plus vraiment de sens.
Alors que vous avez voulu redonner un peu de sens à ce clivage droite-gauche qui est fécond en matière de démocratie, de dialogue, de discours politique.
Il est indispensable, mais je ne sais pas si la cour aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui la fracture elle est ailleurs. Elle est peut-être entre des souverainistes et des européens, ou peut-être. Moi j'ai trouvé que la grande période politique de ces dernières années, c'est le débat en 2004 sur le traité de le traité
constitutionnel européen.
Voilà, où vraiment on a eu un débat extrêmement passionnant, à mon sens, parce que justement, d'abord, on était débarrassé des questions de personnalité, et ensuite, il y avait un vrai clivage sur qu'est-ce qu'on fait du modèle social français, dans quelle mesure on conserve notre souveraineté, et voilà, et le débat, c'était sur quel type de société on voulait. Bon, malheureusement, d'ailleurs, c'est un déni de démocratie absolument invraisemblable, quand on y pense, c'est-à-dire que 55% des Français ont voté non à ce traité, 2 ans après, il passait quasiment en douce à l'Assemblée, donc c'est, voilà, c'est... Aujourd'hui, on a le sentiment que ce clivage droite-gauche, il est plus compliqué à faire exister.
Et pourtant, dans « Des lendemains qui chantent », votre film, Nicolas Castro, vous mettez en scène le peuple de gauche. On parle beaucoup en ce moment dans le cinéma français des comédies communautaires à grand succès. Il y a eu les Ch'tis, les catholiques de droite, dans « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ». Est-ce qu'il y a de ça dans votre film avec ce peuple de gauche ?
Non, parce que vraiment, je crois que j'ai pas tellement poussé cette question-là du peuple de gauche. Je voulais pas, surtout pas d'abord faire de films militants. Et je ne suis en rien légitime pour porter la parole ou porter...
Vous n'êtes pas encarté ?
Plus maintenant, en tout cas.
Mais alors précisément, comment on réagit, peut-être dans des projections tests, des spectateurs qui se revendiquent de droite devant cette histoire qui est racontée donc, du point de vue de personnages de gauche ?
Bah, disons que je pense que...
Ce sont ceux qui ont le plus rigolé ?
Oui, parce que bon, c'est vrai que c'est clairement, malgré tout, il y a une forme de désenchantement par rapport à ce qu'a pu faire la gauche. Donc j'imagine que ça ne peut pas complètement déplaire à des gens de droite. Et surtout, le film ne devait et ne voulait pas être Mitterrandolâtre. Au contraire, il est assez critique sur ses années Mitterrand. Mais une fois de plus, j'insiste, à travers de la comédie et surtout sans jamais, je l'espère en tout cas, se prendre au sérieux.
Mais alors précisément, il y a ces acteurs, les spectateurs, pardon, spectateurs de gauche, spectateurs de droite, pardonnez-moi, il y a deux personnages qui, étonnamment, sont les seuls qui, au milieu de toute cette désillusion, ce désenchantement, paraissent relativement apaisés et qui sont André Dussolier, qui l'un se tourne vers son rabbin, et de l'autre, Ramzi Bedia, qui lui fait fortune dans le Minitel Rose. Est-ce que ça veut dire que la réponse au doute du peuple de gauche serait à chercher soit à la synagogue, soit sur les sites de rencontres coquins ? C'est une solution que vous donnez pour cette rentrée gouvernementale ?
Peut-être. Non, mais c'est vrai que ce qui est frappant, ce sont évidemment tous les points communs qui peuvent exister entre la foi religieuse et la foi politique. Ça repose vraiment sur le même ressort. Il y a un côté messianique, évidemment, dans la politique, puisqu'il y a des questionnements spirituels et il y a l'ambition de changer de monde, de changer de vie, un peu comme on peut le retrouver dans la religion. L'idée aussi de bâtir des règles, d'édicter des règles, de concevoir des éthiques. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait des anciens 68ards, moi, il y a un parcours qui m'a toujours fasciné, c'est celui de Benny Lévy, puisqu'on dit, on raconte qu'il est passé de Mao à Moïse. Et c'est vrai que c'était un des leaders les plus radicaux de la gauche maoïste. C'était un des leaders de la gauche prolétarienne, la GP, dans les années 70. C'est la suite d'une grande dépression nerveuse. Il s'est tourné vers le judaïsme. Il a étudié le Talmud et avec cette même foi messianique. Et je trouvais intéressant que ce personnage d'André Dussolier, qui est complètement déboussolé, qui ne comprend absolument plus son époque, par désespoir finalement se tourne vers ce rabbin et dans une démarche d'ailleurs absolument pas religieuse puisqu'il n'est pas religieux, il n'est pas croyant, mais en tout cas il cherche un nouveau souffle spirituel et il le trouve auprès de ce rabbin. Voilà.
Ensuite, mais alors pour le côté messianique, voilà, de la politique je veux bien, mais alors le côté pornographique?
Alors non, le côté pornographique n'est absolument pas lié à la politique, c'était simplement, ça m'amusait de montrer à quel point les premiers à chaque fois à avoir gagné de l'argent, c'était avec les innovations technologiques, c'était l'industrie du sexe. Et donc le personnage de Ramzi Bedia incarne un petit peu ce parcours et cette évolution.
Un homme précurseur en tout cas qui sent venir le vent de la VHS et du Minitel entre autres et puis des sites de rencontres. Merci beaucoup Nicolas
Castro.
Merci
infiniment de m'avoir reçu.
On invite nos auditrices, nos auditeurs à rencontrer votre film et peut-être à faire des rencontres à cette occasion dans les salles obscures, Des lendemains qui chantent en salle partout en France dès aujourd'hui. C'était C'était La Grande Table d'été, une émission réalisée non pas caméra au point, mais à grands coups de stylo, de clavier AZERTY, de téléphone et de micro par Corinne Amar, Lola Kahn, Marine Loyen, Brigitte Masson, Claudia Prolongeau et Martin Kenéen, à la réalisation Michel-Ange Vinti et à la prise de son Élise Le